Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Aujourd'hui, plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde utilisent CyberGhost pour protéger leur identité numérique en ligne. Un VPN, ça permet de chiffrer ta connexion numérique à Internet, ça permet de masquer son adresse IP. En fait, ça nous rend beaucoup moins traçables, et ça vous rend moins traçable que ce soit sur un Wi-Fi public, à l'hôtel ou chez vous par exemple. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en même temps, tout système confondu, que ce soit ordinateur, tablette, télévision. Dans la plupart des foyers, ça couvre toute la famille. Et attention à une idée reçue, le mode privé ne vous rend pas invisible. Même dans ce mode-là, la plupart de vos données restent exploitables. Un VPN ajoute une vraie couche de protection en amont de votre navigation. Autre point utile, quand vous voyagez, vos services de streaming peuvent changer de catalogue en fonction du pays. CyberGhost permet de se connecter à différents serveurs dans différents pays pour accéder à des plateformes comme Netflix, HBO Max, Hulu ou encore plus de 40 services similaires, tout en gardant une connexion chiffrée et sécurisée. Dans certains pays aussi, certains sites sont bloqués par défaut. CyberGhost vous permet de changer la localisation en quelques clics pour retrouver le contenu à ces sites, toujours dans le respect de votre vie privée. Si vous voulez tester, le lien dans la description vous permet d'obtenir 83% de réduction, soit 2,03€ par mois avec 4 mois offerts. Le service client est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Salut, nous sommes en septembre 2005 au Ground Zero à New York et dans ce qui reste du cratère des tours jumelles, une femme guide trois des hommes les plus puissants d'Amérique que sont Michael Bloomberg, c'est le maire de New York, également Rudy Giuliani ou Giuliani, c'est l'ex-maire qui est devenu le symbole du 11 septembre et George Pataki, le gouverneur de l'État. La femme quant à elle, c'est Tanya Head. Elle est là pour leur raconter, elle est là pour témoigner de ce qu'elle et les autres personnes ont vécu durant les attentats. Ce moment où elle a cru mourir au 78e étage de la Tour Sud. Mais il y a un problème. Pour l'instant, personne ne le sait encore, mais Tanya Head n'était pas dans la Tour Sud le 11 septembre 2001. Elle n'était même pas à New York. Elle était à 6000 km de là, assise dans une salle de classe à Barcelone. Voici l'histoire de l'une des impostures les plus audacieuses de l'histoire moderne. L'histoire d'une femme qui a volé le traumatisme le plus sacré d'une nation et qui a failli s'en tirer. Vous allez être stupéfait tout au long de son histoire et on va essayer de comprendre comment et surtout pourquoi elle a pu faire ça. Pour comprendre comment Tanya Head a pu tromper tout le monde pendant presque 4 ans, il faut d'abord comprendre le contexte. Après le 11 septembre 2001, l'attention du monde est portée sur trois groupes de personnes. D'abord, les près de 3000 victimes décédées. Ensuite, leurs familles en deuil. Et enfin, en troisième groupe, les héros des services de secours. Mais il y avait un quatrième groupe, un peu plus discret, complètement invisible d'ailleurs au début, c'est celui des survivants. Des milliers de personnes qui étaient dans les tours ce jour-là et qui ont réussi à s'en sortir. Beaucoup étaient traumatisés, certaines étaient mutilées physiquement, mais médiatiquement, ils étaient en marge. Les fonds d'aide, par exemple, ciblaient principalement les familles des personnes décédées. Les cérémonies commémoratives étaient jamais à la gloire des survivants, on les oubliait. Pendant 2 ans, ils n'ont même pas eu le droit d'accéder au Ground Zero pour faire leur deuil. Et c'est dans ce vide qu'est né le World Trade Center Survivors Network. C'est né d'un homme, nommé Jerry Bogaz, lui-même survivant de la Tour Nord, une petite association informelle pour se soutenir mutuellement, pour se retrouver et pour partager une douleur que personne d'autre ne pouvait vraiment comprendre. Et c'est là, évidemment, que Tanya Head va faire son apparition. Entre 2003 et 2004, sur les forums en ligne du Survivors Network, son nom commence à circuler. Elle a aussi un groupe de soutien pour survivants. Elle poste des messages d'une intensité émotionnelle intense, bouleversante. Son histoire sort complètement du lot. Jerry va finir par la contacter et après plusieurs mois d'échanges entre eux, ils décident de fusionner leurs deux groupes. Et en janvier 2004, Tanya se présente pour la première fois en personne à une réunion. Les autres survivants, qui connaissent déjà son témoignage en ligne, l'accueillent comme une légende vivante. Et pour cause, Tanya Head fait partie des 19 personnes, oui seulement 19, qui ont survécu à la zone d'impact ou juste au-dessus ou juste en dessous dans les deux tours. La zone précise où l'avion est rentré. Attention, au sein de cette première partie, vous allez voir ce logo apparaître. C'est le moment où je vais raconter techniquement ce qui se passe à l'intérieur des tours pendant l'explosion de l'avion dedans. Si vous êtes sensible à ce genre de récit, passez à partir du moment où vous voyez ce logo jusqu'au prochain logo. Je vais mettre un chapitrage directement dans la description pour vous signaler le moment où vous pouvez reprendre le récit sans que je raconte quelque chose qui soit trop dur à supporter pour vous. Elle raconte que le 11 septembre 2001 au matin, elle travaillait pour Merrill Lynch, la grande banque d'investissement. Elle était au 78e étage de la Tour Sud pour une réunion d'affaires, un truc important. À 9h03, le deuxième avion percute la tour entre le 77e et donc le 85e étage, exactement là où elle se trouve. L'explosion est apocalyptique, Tania est projetée violemment contre un mur de marbre, son bras droit va prendre feu. Autour d'elle, c'est l'enfer, mais à ce moment-là, elle ne pense qu'à une seule chose, son fiancé Dave. Et Dave, il travaille dans l'autre tour, la tour nord, tout en haut du building. Ils doivent se marier bientôt. Et c'est ça qui va donner la force à Tania de ramper à travers les décombres, à travers la fumée, à travers les corps. Elle croise un homme coincé sous les gravats, il est en train de mourir, il lui tend son alliance, il lui dit « S'il vous plaît, rendez-la à ma femme, Tania, prends l'alliance et continue. » C'est là qu'apparaît son sauveur. Un jeune homme surgit de la fumée, il voit Tania en flammes, il éteint le feu sur ses vêtements avec ses seules mains nues à lui, il la guide vers le seul escalier encore praticable et grâce à lui, Tania descend. Elle s'évanouit d'ailleurs en chemin et elle se réveille 5 jours plus tard dans une unité pour grand brûlé. Et c'est là qu'on va lui apprendre que son mari Dave est mort dans l'effondrement de la tour nord, que son sauveur s'appelait Wells Crowther, 24 ans, trader en bourse, pompier volontaire. Il a sauvé apparemment entre 12 et 18 personnes ce jour-là en faisant des allers-retours dans les escaliers. C'est un héros. Puis la tour s'est effondrée sur lui. Wells est devenu l'un des héros les plus célèbres du 11 septembre. Le président Obama l'a même honoré en 2014. Vous comprenez maintenant pourquoi cette histoire était imparable. D'abord, il y a le système de la compassion. Face à une horreur aussi sacrée que le 11 septembre, le doute, c'est une insulte en fait. On ne peut pas demander à une femme gravement brûlée de prouver qu'elle était bien dans les tours, c'est juste, c'est pas possible. Ensuite, Tania avait construit ce que j'appellerais une trinité de légitimité en 3 points, une sorte de triforce du mensonge. D'abord, la preuve physique avec ses cicatrices au bras. Elles étaient bien réelles, hein. Elles étaient visibles, elles étaient impressionnantes, elles correspondent exactement à son récit de membres brûlés et écrasés. Ensuite, la connexion héroïque en s'appropriant l'histoire de Wells Crowther. Ça la rendait presque intouchable. Wells était un martyr sacré, remettre en question Tania, c'est implicitement remettre en question son héroïsme à lui. En plus, comme Wells était mort, il ne pouvait pas nier l'avoir sauvé. Et enfin, le deuil ultime d'avoir perdu son fiancé juste avant le mariage dans l'autre tour. Ça l'a placé au sommet de la hiérarchie de la souffrance, si tant est qu'il en existe une, elle était une survivante, et une veuve, double statut de victime. Et puis, j'ajoute quand même qu'il y avait son comportement. Tania ne cherchait pas de l'argent, et ça on en reparlera. Au contraire, elle finançait de sa poche les événements du Survivors Network en refusant tout remboursement. Elle donnait de son temps, parfois de son énergie, parfois même de son argent ou fortune personnelle supposée. Alors qui aurait pu imaginer qu'elle mentait ? Entre 2004 et 2007, Tania Head devient progressivement l'un des visages, voire le visage, des survivants du 11 septembre. Elle est élue présidente du World Trade Center Survivors Network. Elle organise des collectes de fonds, obtient des financements pour des thérapies. Elle milite, et avec succès en plus, pour que les survivants aient accès à Ground Zero. En 2005, elle devient guide bénévole au Tribute WTC Visitor Center. Elle guide des milliers de visiteurs, des étudiants, des dignitaires étrangers. Elle donne des conférences sur le sujet dans des universités. Elle apparaît dans les médias comme la porte-parole officielle des 20 000 survivants. Et bien sûr, il y a cette photo donc iconique de septembre 2005 où on la voit aux côtés de Bloomberg, Giuliani et Pataki au Ground Zero. Elle est au sommet, admirée, respectée, aimée. Et c'est là qu'il y a quand même des fissures qui vont apparaître dans le mensonge. D'abord, il y a une incohérence terminologique. Parfois, elle parlait de son fiancé et parfois de son mari. Alors, je suis d'accord, c'est pas grand-chose, mais quand on lui demandait des précisions, elle racontait une histoire de mariage symbolique qu'elle aurait fait à Hawaï quelques semaines avant les attentats, et c'est pour ça qu'elle disait des fois mon mari. Une sorte de cérémonie privée sur la plage qui n'avait pas de valeur légale. Et puis, il y avait aussi les cicatrices. Elles étaient réelles, je vous l'ai dit, elles étaient impressionnantes, mais quelques survivants qui avaient vu de vraies brûlures graves, trouvaient qu'elles ne correspondaient pas tout à fait à ce qu'elle décrivait, à savoir, je la cite, un bras presque arraché dans l'explosion, puis recousu. Et puis pour revenir encore à Dave, personne ne l'avait vraiment jamais rencontré, ce mari. Tania parlait de leur chien Elvis, un golden retriever, mais quand des amis venaient à son domicile actuel, le chien il était toujours ailleurs, chez la femme de ménage. Voilà, c'est un peu étrange. Elle évoquait également leur appartement dans l'Upper East Side, leur dispute dans un taxi jaune qui s'était transformé en coup de foudre à Dave et elle. Elle déposait même des modèles réduits de taxi jaune à Ground Zero quand il y avait des commémorations. Mais personne n'avait jamais vu Dave. Mais qui aurait osé poser des questions directement ? Comment dire à une femme en deuil « Prouve-moi que ton mari a existé ». Personne, ça se fait pas. Et c'est exactement sur ce malaise que Tania, elle comptait. Et à l'été 2007, à l'approche du 6e anniversaire des attentats, le New York Times prépare un grand article sur les survivants emblématiques. Le Survivors Network recommande évidemment Tania Head comme le sujet idéal. Et les journalistes David Dunlap et Serge Kowalski acceptent avec énormément d'enthousiasme, mais surtout ils font quelque chose que personne n'avait fait jusqu'alors. Ils font leur travail, ils vérifient les informations. Et c'est pas qu'ils doutent de Tania, hein. C'est une procédure standard quand on est un bon journaliste, surtout dans le journal de référence qu'est le New York Times. Avant de publier un portrait, qui que ce soit, même le président des États-Unis, eh bien, on vérifie les faits de base. Et c'est là que ça commence à s'effondrer. Voici les trois incohérences que les journalistes vont trouver. D'abord, Tania affirme travailler au Merrill Lynch au World Trade Center. Donc les journalistes contactent le service RH de la banque et il n'y a aucune trace d'une Tania Head dans leurs archives. Plus troublant encore, Merrill Lynch n'avait pas de bureau dans la Tour Sud en 2001. En fait, leur bureau était dans le World Financial Center adjacent, mais pas dans la Tour Sud. Et ensuite, les diplômes. Tania, elle se vantait d'avoir des diplômes prestigieux comme Harvard ou Stanford. Des journalistes donc vont contacter les registres des anciens élèves des deux universités. Il n'y a pas de trace de Tania Head. Et enfin, et c'est là que ça devient vraiment sordide, les journalistes réussissent à identifier l'homme réel dont Tania s'appropriait l'identité, du moins doit s'approprier l'identité en tant que mari, un véritable défunt de la Tour Nord dont le prénom est effectivement Dave. Il contacte sa famille, ses amis. Personne n'a jamais entendu parler de Tania Head. Dave n'était pas fiancé, il n'avait pas de projet de mariage, il n'avait pas de chien nommé Elvis, il n'était pas allé à Hawaï, rien. Tania avait pris un nom sur la liste officielle des morts du 11 septembre, un inconnu qu'elle n'avait jamais rencontré, et elle en avait fait un fiancé imaginaire. Les journalistes contactent Tania pour lui demander des explications, et elle panique. Elle annule le premier rendez-vous, puis le deuxième, puis le troisième. À chaque fois, elle invoque une détresse émotionnelle trop intense à l'approche de l'anniversaire. En coulisses, elle envoie des emails frénétiques aux membres du Survivors Network, les suppliant de ne pas parler aux journalistes. Elle accuse les journalistes d'inventer des mensonges sur elle, donc elle demande la loyauté aux autres membres. Et le 27 septembre 2007, le New York Times publie son article en première page. Le titre est dévastateur, je vous la fais en français mais on vous l'affiche en VO. Dans un récit de survie du 11 septembre, les pièces ne collent pas. L'article révèle les incohérences, les vérifications qui ont échoué, les témoins qui contredisent et la réaction est immédiate. Le jour même, le conseil d'administration du Survivors Network vote à l'unanimité et Tania Head est démise de ses fonctions, évidemment de présidente. Elle est même exclue de l'association. Richard Zimbler, qui lui succède, publie un communiqué laconique sur le site internet de l'association en disant que Tania Head n'est plus associée au Survivors Network du World Trade Center. Le Tribute Center annonce qu'elle ne fera plus de visite guidée. Tania Head refuse de s'expliquer, elle disparaît de New York, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'il restait une question fondamentale à résoudre. Si Tania Head n'existe pas vraiment, alors c'était qui cette femme ? Quelques jours après l'article du New York Times, un journal de Barcelone, la Vanguardia, publie sa propre enquête sur le sujet. Et il révèle l'identité réelle de Tania Head. Elle s'appelle Alicia Esteve Head. Elle est née le 31 juillet 1973 à Barcelone, en Espagne. Elle est issue d'une famille aisée de la haute bourgeoisie catalane. Et le 11 septembre 2001, Alicia est assise dans une salle de classe à l'ESAD, une prestigieuse école de commerce à Barcelone. Donc elle est à 6000 km des faits. Elle suivait un cours en master de gestion. Elle a continué à assister d'ailleurs aux cours dans les semaines qui ont suivi les attentats du 11 septembre jusqu'à la fin de l'année. Alicia n'a mis les pieds aux États-Unis qu'à partir de 2003, deux ans après les faits. Elle est arrivée à New York avec une histoire déjà construite, déjà rodée, déjà parfaite. Et là vous êtes en train de vous dire « oui mais son bras alors ?» Ces cicatrices, aussi impressionnantes soient-elles, celles qui avaient convaincu tout le monde, elles étaient réelles, mais elles ne venaient pas du 11 septembre. Les camarades de classe d'Alicia, à Barcelone, se souvenaient qu'elle portait déjà des cicatrices en 2001 à l'époque. Elle leur expliquait qu'elle provenait d'un grave accident de voiture survenu quelques années plus tôt. L'enquête va révéler qu'à 18 ans, Alicia a survécu un terrible accident routier sur la côte méditerranéenne espagnole. Et c'est là que réside le génie morbide de l'imposture. Elle a utilisé son traumatisme physique véritable, donc vérifiable, pour authentifier un traumatisme historique mais fictif. Et pourquoi elle a fait ça ? Pourquoi une jeune fille de la haute bourgeoisie catalane s'invente une vie comme ça ? Pour comprendre, il faut que je vous remonte à 92. Il faut que je vous emmène quand Alicia a 19 ans. Cette année-là, sa famille est éclaboussée par l'un des plus gros scandales financiers de la Catalogne. c'est l'affaire Planas de Artes, connue aussi sous le nom de l'affaire BFP. J'ai découvert ça en faisant les recherches pour cette vidéo. Faux billets d'ordre de transaction, détournement de fonds, le procès fait la une des journaux, la famille Esteve, pilier quand même de la bonne société de Barcelone, s'effondre dans le déshonneur public. Du jour au lendemain, son nom de famille devient synonyme de honte. Imaginez-vous à sa place, votre père et votre frère sont en prison, partout où vous allez dans Barcelone, on vous reconnaît comme étant la fille de l'escroc, c'est pas agréable à vivre. Je pense, j'imagine, hein, ça j'en sais rien, qu'elle a commencé à fantasmer sur une autre vie à ce moment-là. Un endroit où elle serait plus la fille de l'escroc, mais une autre personne, peut-être même une personne qu'on admire, qu'on aime, en tout cas pour qui on a de l'empathie. Et New York et le chaos du 11 septembre lui ont sûrement offert cette opportunité. D'après mes recherches, Alicia était déjà une petite menteuse compulsive avant 2001. Ses amis de Barcelone qui ont témoigné se souviennent qu'elle racontait souvent des histoires extravagantes comme des petits amis millionnaires que personne n'a jamais vus, un train de vie luxueux qu'elle n'avait pas vraiment malgré qu'elle était dans une situation confortable. Elle maîtrisait par contre parfaitement l'anglais. Elle avait un accent américain presque parfait et elle était un peu obsédée par le 11 septembre, soi-disant. Pendant 2 ans, donc, de septembre 2001 à 2003, elle a probablement, c'est une spéculation, étudié les attentats avec une intensité maniaque. Elle a dû regarder tous les documentaires sur le sujet, lire tous les articles, mémoriser un peu les témoignages des survivants. Je pense qu'elle a choisi le 78e étage parce que c'est la zone où presque tout le monde est mort. Donc il y a peu de témoins pour contredire sa présence. Elle a sélectionné Wells Crowther parce qu'il était mort et donc invérifiable, et comme je vous l'ai dit, parce que son histoire était publiquement documentée, donc crédible. Et ensuite elle a volé le nom d'un défunt sur une liste officielle de l'autre tour pour en faire son fiancé, et elle a transformé son accident de voiture en brûlure de kérosène. Voilà, chaque élément était blindé. En 2003, à 30 ans, elle arrive à New York, elle se présente comme Tanya Head, diplômée de Harvard et de Stanford, cadre chez Merrill Lynch, survivante, miraculée pendant 4 ans. Bah, personne va trouver l'intérêt de vérifier. Mais laissez-moi vous parler du paradoxe du bien. Le paradoxe du bien. J'ai appelé ça comme ça parce qu'en étudiant cette histoire il y a plusieurs mois, c'est peut-être même ça qui m'a donné envie de vous raconter tellement ça m'a perturbé mentalement. Alicia n'a jamais volé d'argent. Elle n'a jamais demandé de compensation au fonds d'indemnisation des victimes du 11 septembre par exemple. Elle n'a jamais monnayé son statut ou ses conférences. Au contraire, elle a donné. Elle a financé donc de sa poche des événements, des thérapies, des projets commémoratifs. Elle a aussi investi de son temps, de son énergie, parfois même, je vous l'avais dit, de sa petite fortune personnelle. Et surtout, elle a vraiment aidé beaucoup de gens. Il y a des survivants qui témoignent encore aujourd'hui qu'elle les a sauvés émotionnellement, parce qu'elle leur a donné une voix, par exemple, parce qu'elle a obtenu pour eux la reconnaissance qu'ils méritaient, parce qu'elle les a accompagnés dans le deuil avec une empathie qui semblait sincère. Alors comment on peut réconcilier mentalement ces deux réalités sans rentrer en dissonance cognitive? D'un côté, on a une menteuse pathologique qui s'approprie le traumatisme le plus sacré des États-Unis, et de l'autre, on a une femme qui a consacré 4 ans de sa vie à aider de vraies victimes sans gain financier pour elles. Les experts s'accordent pour diagnostiquer chez Alicia quand même une forme sévère de ce qu'ils appellent pseudologia fantastica, le mensonge pathologique. C'est un trouble de la personnalité où le sujet construit des récits grandioses dans lesquels il joue toujours le rôle central, donc c'est soit le héros, soit la victime, et où la victime d'ailleurs finit par croire partiellement à ses propres éléments de fiction. Angelo Guglielmo Jr., je vous en ai pas parlé, mais c'était un cinéaste qui est devenu un ami très proche de Tanya avant la révélation, a ensuite réalisé un documentaire sur elle. C'est disponible, je vous le recommande, ça s'appelle The Woman Who Wasn't There. Et il a déclaré « Nous étions amis pendant des années et pas une seule seconde, je n'ai soupçonné qu'elle n'était pas une authentique survivante. » C'est dire à quel point elle était convaincante. On peut aussi parler de narcissisme pathologique. Alicia ne pouvait pas être une simple survivante, elle devait être LA survivante, celle qui avait l'histoire la plus tragique, les blessures les plus graves, le sauveur le plus célèbre. Alicia n'a commis aucun crime. Elle n'a pas volé d'argent, elle n'a pas usurpé l'identité d'une personne existante au sens légal du terme, elle s'est inventée une identité fictive, elle n'a pas commis de fraude financière, et aux États-Unis, mentir sur le fait qu'on était présent lors d'un événement tragique alors qu'on n'y était pas, ben c'est pas un délit en soi. Aussi choquant que ça puisse paraître, c'est pas un délit. Aucune famille de victimes d'ailleurs n'a porté plainte contre elle, aucun survivant non plus. Alicia est juridiquement libre, moralement condamnée, mais légalement intouchable. Immédiatement après l'article du New York Times en septembre 2007, Alicia va quitter précipitamment New York. Elle retourne en Espagne, probablement chez sa mère à Barcelone, on ne sait pas trop, et elle disparaît de la circulation. Février 2008, quelques mois après le scandale, les membres du Survivors Network reçoivent un email anonyme depuis une adresse espagnole. Le message annonce que Tanya Head s'est suicidée. Pendant quelques jours, tous les membres vont ressentir un mélange de culpabilité et de tristesse. Les anciennes victimes aussi vont penser à elles, malgré la trahison, malgré la colère, personne ne souhaitait la mort de Tania. Mais c'était un nouveau mensonge. Aucune nécrologie, aucun rapport de police, aucun registre de décès en Espagne ne confirme sa mort. C'était encore une tentative de manipulation de Tania, susciter la pitié une dernière fois pour disparaître dans le mythe. Alicia n'est pas morte en septembre 2011, 10 ans après les attentats. Et vous savez pourquoi? Parce que Angelo, le cinéaste qui l'avait connu et qui préparait le documentaire dont je vous ai parlé, la repère dans les rues de New York. Elle marche tranquillement avec sa mère, à quelques pas de Ground Zero, pendant les commémorations du 10e anniversaire. Il la confronte, il a la caméra avec lui, et elle refuse de répondre. En juillet 2012, la presse espagnole révèle qu'Alicia vient d'être licenciée d'un poste. Ses employeurs ont découvert son passé new-yorkais grâce à la publicité autour du livre et du documentaire dont je vous ai parlé, sorti cette année-là. Vous vous demandez sûrement en 2026 où est Alicia Head ? Eh bien, d'après les dernières informations que j'ai pu trouver, c'est donc à prendre avec des grosses pincettes, elle vivrait toujours à Barcelone. En 2021, on a appris qu'elle aurait créé une petite entreprise de rénovation. Quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'elle mène une vie discrète, recluse, puisqu'elle évite toute exposition publique. À ce jour, Alicia Head n'a jamais présenté d'excuses publiques. Elle n'a jamais accordé d'interview, elle n'a jamais expliqué ses motivations. L'histoire de Tania, ou plutôt d'Alicia Head, montre que l'on peut pirater le système immunitaire de notre compassion. Elle a compris que c'est l'endroit dans l'esprit humain où le doute n'est pas toléré, n'est pas permis au niveau de la société. Donc, on peut créer des choses manipulatoires avec ça. Elle a exploité le sanctuaire de notre empathie pendant 4 ans. Et elle a utilisé des biais cognitifs, par exemple le biais de confirmation, l'effet de halo, l'autorité de la victime, etc. pour construire une réalité alternative où elle était intouchable. Elle a commis quand même un vampirisme émotionnel, on peut le dire, qui reste à ce jour sans équivalent, je crois, dans l'histoire moderne des impostures. Mais elle rappelle aussi que la frontière entre le bien et le mal, c'est pas aussi clair qu'on voudrait le croire. Tania, elle a pas fait que du mal en mentant. Elle a même pas fait beaucoup de mal. Elle a fait beaucoup de bien aussi en aidant. Alors, comment on peut régler ces deux vérités-là que je viens de prononcer l'une contre l'autre? Franchement, je sais pas. Je sais pas si on peut le faire. Je sais même pas s'il y a un intérêt à essayer de voir ce qui est bien ou pas bien. Ça a été. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez garder les regards indiscrets à distance et être anonyme en ligne, c'est le moment idéal pour tester CyberGhost VPN pour seulement 2,03€ par mois. Le lien est en description. Des récits hyper étonnants, j'en fais pas mal sur la chaîne, comme Michael par exemple, qui a réussi à gagner contre un jeu télé d'une manière insoupçonnable. Je vous la recommande cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et puis quoi qu'il arrive, je vous recommande aussi, si vous le souhaitez, de suivre mon travail. Il suffit de cliquer sur suivre ou sur s'abonner pour voir les prochaines vidéos. J'en fais 2 par mois en moyenne sur cette chaîne. Ça c'est si vous ne me connaissiez pas, parce que si vous me connaissez déjà, je suis toujours mentaliste, je fais toujours mes spectacles de mentalisme, j'écris toujours mes livres. Mais pour les spectacles c'est moins évident, parce qu'après 16 ans de scènes intensives, à la fin de la dernière tournée des Zénith, j'ai fait une pause d'un petit peu plus d'un an, un an et demi. Mais je reviens sur scène pour tester des nouvelles choses d'abord au Festival d'Avignon cette année. La billetterie est déjà ouverte, je vous mettrai un lien en description. Attention, il reste que 700 places pour les 25 représentations. C'est pour ça que je vous en parle à vous au moins une fois sur cette chaîne. Je m'appelle donc toujours Fabien Licard, à très bientôt, ciao.